s'éclaire, des millions de lumières. Il me plaît à me promener, contemple les vitrines, la nuit qui me fascine.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligrigues à Montpellier, Canas, sur la Toulouse, les Radio Primitive sur Reims, c'est les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, je crois que ce soir, on va essayer de consacrer notre émission à l'Afrique du Sud et puis à Nelson Mandela. Alors, je pense que il y a des tas de choses qui se disent dans la presse aujourd'hui qui sont quand même un peu bizarres. Enfin, bizarres non, finalement. Hein, il est présenté comme étant un super homme, ce qui est peut-être vrai, mais est-ce que le problème était là? Et est-ce qu'il est là? Ensuite, on nous le présente comme étant quelqu'un qui est très écuménique, qui a pardonné, qui a toujours été non violent, ce qui est faux, comme on va dire tout à l'heure. Ensuite, on nous parle pas finalement de la réalité des Africains, de l'Afrique du Sud aujourd'hui, au niveau économique, c'est quand même important à dire. Alors justement, moi j'ai retrouvé un certain nombre de choses sur l'économie en Afrique du Sud aujourd'hui. 50% de la population, au moins en 2010, était sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté, 50%, la moitié de la population. Alors, il faut savoir que la population active, c'est 17,32 millions de personnes en 2009. Depuis, ça a dû légèrement augmenter. Et en 2009, il y avait un taux de chômage de 24%. C'est quand même assez grave. Quoi. Parce que c'est un pays quand même qui... Alors, faut rappeler quand même que l'ANC a le pouvoir depuis 1994, et les chiffres que je vous donne là datent donc de 2010, ça fait tout de même 16 ans de pouvoir de l'ANC, et qui a donc obtenu, on peut le dire, ses résultats, même si effectivement, on le sait très bien, quand on prend le pouvoir d'État, si c'est pas pour le détruire, si c'est pour le garder, c'est évident qu'il faut gérer le système capitaliste. Et là, l'ANC apparemment le fait très bien. Le fait très bien pour les patrons. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, bon, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, c'est quand l'ANC a pris le pouvoir en 94, il y a eu ce qu'on a appelé en France d'ailleurs, du côté de Sarkozy, la discrimination positive. Et là, effectivement, la discrimination positive, qui fonctionne encore d'ailleurs, fait en sorte que eh bien, les Noirs peuvent avoir accès en priorité dans un certain nombre de secteurs, aussi bien des banques, de l'administration, que des sociétés nationalisées privées d'ailleurs, aussi bien dans les mines, etc. Ils arrivent donc à faire de la discrimination positive, et on s'aperçoit que la discrimination positive aboutit à quoi? Eh bien, aboutit au fait que si en 94, 29%, c'est-à-dire à peine un tiers de la classe moyenne était constituée de blacks. Maintenant, aujourd'hui, on en est à plus de 50% largement. C'est-à-dire que cette administration positive a fait en sorte, effectivement, c'est logique, hein, c'est tout à fait logique, qu'il y ait une classe moyenne black qui prenne de plus en plus de l'ampleur. Mais c'est pas n'importe quel black, en fait. On s'aperçoit qu'en regardant un petit peu ce qui s'est passé, finalement, l'ANC a placé ses bonhommes, l'ANC a placé ses adhérents. Il y a tout de même eu vachement au niveau du pouvoir de l'ANC, eh bien, un clientélisme terrible. Alors voilà, voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Je pourrais parler, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a eu la réforme agraire qui, pour l'instant, a été ridicule. La réforme agraire, depuis 1994, seulement 5% des fermes ont été redistribuées aux 1,2 million de Noirs, alors que 60 000 Blancs possèdent et gèrent toujours 80% des surfaces cultivables. Donc voilà, pour l'instant, donc l'agriculture appartient toujours aux Blancs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement, d'après ce que disent un peu beaucoup de gens, même si aujourd'hui il y a une population blanche qui a 10% est constituée de pauvres, il faut le savoir, 10% de pauvres, néanmoins, la majorité des Blancs vivent un peu comme chez nous, quoi, c'est-à-dire quoi, à l'occidental, alors que la majorité des Noirs, ben, vivent toujours comme des Noirs, quoi, c'est clair, comme des Noirs africains, d'autres pays africains. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a une immigration terrible. Il y a beaucoup de Blancs qui sont partis. Ils sont partis où ? En Australie, aux USA, en Israël. Ils ont immigré aussi dans d'autres pays, européens, je crois. Mais du côté de l'immigration, il y a une immigration de Blacks qui arrive maintenant en Afrique du Sud, qui est constituée de gens du Zimbabwe et des gens de Côte d'Ivoire, la plupart du temps. Et ça pose des sacrés problèmes de racisme et de non-acceptation de gens qui viennent là d'une manière au niveau de une certaine fraction de la population n'aime pas du tout cette immigration. Alors voilà où on en est. C'est les grandes lignes, hein. Je pourrais peut-être plus développer, peut-être qu'on aura l'occasion de voir, si ce n'est qu'au niveau de la vie, l'espérance de vie à la naissance aujourd'hui est de 51 ans environ, que le taux d'alphabétisation des adultes est quand même important, de 82,4%. Voilà. Ensuite, que peut-on dire aussi? Eh bien, oui, toujours, faut toujours se rappeler qu'il y a quand même 24% de chômage encore aujourd'hui, et que au niveau de la progression de la production, il a été une période au début de 94 à 2004-2005 importante, d'ordre de 5% par an. Ça a baissé depuis, c'est lié effectivement à la crise. Néanmoins, l'Afrique du Sud, comme chacun sait, a un sous-sol vachement riche, hein, puisque c'est, on peut dire, le premier producteur mondial de diamants. C'est aussi des tas de mines dans des tas de métaux précieux, hein, le chrome, etc.
Ouais, alors sur les chiffres que tu donnais tout à l'heure, quand on dit qu'il y a 24% de chômeurs, c'est suivant les statistiques de l'OIT, et pour les syndicats, eux, ils estiment à 40% le nombre de
chômeurs. Ah là, tu fais bien de lire.
Alors, deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que 43% de la population d'Afrique du Sud vit avec moins de 260 euros par mois.
Ouais.
Et que
ça rejoint les chiffres que j'ai dit tout à l'heure.
Et en 2013, le revenu de la tranche la plus pauvre de la population, soit 40% de la population quand même, était inférieur de moitié de ce qu'elle était du temps de l'apartheid.
Là, effectivement. Comme quoi, si l'apartheid a été arrêté, abrogé, au niveau classe sociale, ça a empiré.
Bah, je crois que la raison et la volonté de cette émission, c'était de revenir quand même sur cette espèce de consensus international et spectaculaire tel qu'il est produit depuis aujourd'hui une semaine, puisque
ça va continuer de plus belle demain.
Il y a forte chance pour que jusqu'aux obsèques et même un peu après, on continue à distribuer cette espèce de soupe humaniste et larmoyante qu'on voit sur l'entièreté des médias et puis qui émane de toute la classe politique. Alors évidemment, tout cela avait été préparé, puisque depuis l'agonie de ce pauvre vieillard, on attendait avec impatience sa mort pour pouvoir justement sortir t-shirt, biopic, film, etc., etc. Bref, c'était quelque chose auquel tout le monde s'était préparé, avait préparé son petit hommage. Ce qui est quand même à la fois assez puant, d'une part, parce que bon... utiliser des cadavres, c'est pas très propre, mais qui est surtout une imposture intellectuelle formidable, puisque il suffit de se replonger dans ce qu'a pu être les années 80 pour les gens qui ont encore quelques neurones et un petit peu de mémoire, pour se rendre compte que ce consensus vachement pas mou tel qu'il est présenté aujourd'hui était vraiment pas du tout la même chose il y a à peine 20 ans. Par exemple, on peut juste faire quelques citations, hein, pour voir, quoi. Margaret Thatcher, on peut pas dire que ça soit pas quelqu'un qui soit représentatif de l'état d'esprit des années 80, en 1987, elle déclarait que l'ANC est une organisation terroriste typique. Quiconque pense qu'il va diriger le gouvernement en Afrique du Sud vit au pays des merveilles. Bravo, Maggie. Nelson Mandela aurait dû fusiller, ça c'était Teddy Taylor, un député conservateur britannique qui était secrétaire d'État au Foreign Office, sympa. Bon, j'en passe, et des meilleurs. Notons que Mandela est resté inscrit sur la liste noire des terroristes. Alors aux États-Unis, on a des listes, ils aiment bien faire des listes, il y a des listes d'organisations, puis il y a des listes d'individus. Là, c'était des listes d'individus. Donc Mandela, il restait un terroriste officiellement, hein, sur la liste américaine jusqu'en 2008, etc., etc. Bon, ce qu'il faut, c'est pas seulement comprendre combien le spectacle aime bien avoir des histoires à raconter et des contes à donner aux gens devant la télévision. Ça, c'est sûr que l'histoire de Mandela là-dessus, elle est plutôt adéquate. Mais ce qu'il faut comprendre pour voir comment ce consensus est arrivé, c'est que c'est le rôle et l'importance de l'Afrique du Sud en tant que pays et en tant que relais des puissances étrangères et occidentales tout au cours de l'histoire de XXe siècle et même auparavant. Donc sans faire forcément un exposé ou un cours d'histoire, c'est quand même important de rappeler quelques petits éléments pour bien saisir tout ça. Donc l'Afrique du Sud est d'abord une colonie, mais une colonie de type un peu particulier, puisque elle est la colonisation de l'Afrique du Sud commence au XVIIe siècle, mais c'est pas une colonisation qui se fait par un État. C'est d'abord des migrants qui vont aborder en Afrique du Sud, des migrants qui viennent des colonies anglaises, du Pays-Bas, il y a même une minorité de huguenots français, quoi. Donc c'est d'abord une colonie de peuplement sans forcément un État qui vient organiser cela. Et comment dire, cette source, cette histoire de l'Afrique du Sud, elle aura extrêmement d'importance au cours des années de constitution de l'État sud-africain. D'ailleurs, on parle d'Afrique du Sud, mais c'est quelque part difficile de donner un véritable nom à cette espèce de mosaïque de population qu'est le territoire sud-africain, puisque il y a des histoires et de peuplement et des vagues de peuplement et des constitutions d'histoire indigène qui mériteraient de démêler tout ça, mais bon, on n'a pas forcément le temps, quoi. Donc l'Union d'Afrique du Sud en tant qu'entité est fondée en 1910, c'est l'Union d'Afrique du Sud. Après une guerre coloniale qui va impliquer les bourses, donc ceux qui sont les colons principaux, vous m'excusez pour la prononciation, B-O-E-R-S, pardon, entre eux et comment vous dites, hein ?
Les bourgs.
D'accord, donc ça c'est la guerre entre les migrants originel et l'État anglais. Pour se libérer et fonder en 1910 l'Union d'Afrique du Sud. Donc tout au cours de ces années, il y aura la constitution de l'État africain et déjà dès le début, dès les années 20, la mise en place d'une ségrégation par la puissance tutélaire anglaise, puisque pendant un long moment, l'Union sud-africaine conservera le statut de Dominion. Je ne sais pas en quelle année est l'indépendance de l'Afrique du Sud, mais c'est pas grave. Donc, à partir de 48, il y aura ce régime d'apartheid qui sera élaboré et qui sera maintenu jusqu'en 1994, avec évidemment, comme on l'a dit, l'assentiment des puissances étrangères, des puissances occidentales. Et pourquoi l'Afrique du Sud a eu un rôle extrêmement important et pourquoi il était important de maintenir un État stable et sous contrôle des puissances occidentales en Afrique du Sud? Parce qu'il suffit de regarder où se situe géographiquement l'Afrique du Sud, c'est vraiment la pointe, le cône de l'Afrique, et c'est quelque part le seul passage des marchandises pour revenir dans l'océan Atlantique, de remonter vers l'Europe avec le canal de Suez, quoi. Donc la position stratégique de l'Afrique du Sud est vraiment primordiale dans la géopolitique internationale. D'autre part, tu l'as dit, les ressources minières sont très très importantes, et à partir de 1948, il va y avoir, et donc de l'indépendance de l'Afrique du Sud, il va y avoir un énorme développement de l'industrie. C'est d'ailleurs le pays le plus industrialisé en Afrique. Donc, ce qui signifie le développement d'une classe ouvrière extrêmement importante, et donc forcément l'arrivée sur le tapis d'une question sociale et d'une question politique qui fait que les revendications de ce prolétariat entrent bien évidemment en conflit avec l'organisation sociale qui dirige l'Afrique du Sud. Et donc à l'époque des émancipations nationales des autres pays africains, il était évidemment hors de question que la puissance la plus riche et la plus industrialisée puisse montrer quelque part l'exemple avec la constitution d'un État multiracial, indépendant, libre, etc., tout ce que vous voulez, etc., etc. Donc, à ce moment-là, évidemment, il était vraiment très important à la fois de maintenir sous contrôle l'Afrique du Sud et surtout qu'elle suive une voie, un chemin, si en tous les cas qui n'était pas déterminé par d'autres, reste en tous les cas dans les clous, quoi. Mais bon, sans faire de la géopolitique, on peut plutôt effectivement, comme tu l'as dit, s'intéresser à cette figure qui est Mandela, parce que l'histoire vue par les dirigeants, elle est tellement simpliste qu'elle s'incarne dans des personnes et pas du tout dans des mouvements. C'est quand même assez scandaleux de résumer la lutte contre l'apartheid à ce seul individu, malgré tous les mérites qu'il peut avoir, quoi. Il y a aussi effectivement le fait qu'on peut relever que on met en avant le fait que ce fut le plus ancien prisonnier politique, hein, le plus long prisonnier politique, etc. On soulignera quand même qu'il y a des gens qui sont en prison pour leur opinion et pour leur combat depuis, si ce n'est au moins plus longtemps que Nelson Mandela. Le seul nom de Léonard Peltier ou de Mumia Boujamal devrait vous faire penser à quelques trucs, et ça serait bien quand même de pas attendre que ces gens-là y crèvent en tôle avant de leur rendre justice. Mais bon, si on croit à la justice, on peut toujours continuer à rêver. Ces gens-là ne sortiront que parce qu'il y aura un consensus et que parce qu'il y aura un combat pour leur libération. On soulignera aussi que, par exemple, Hernan Wallace, qui était un ancien Black Panthers, qui est resté 35 ans en prison, qui finalement a été innocenté au bout de 35 ans et qui est mort quelques jours après sa libération de prison, n'a lui pas évidemment commis, n'a pas évidemment causé, pardon, le même, on va dire, les mêmes louanges, quoi. C'est normal, évidemment, c'est pas aussi propre, c'est pas aussi clean que Mandela. Et ben voilà, quoi. Ce dont on a l'impression aussi, c'est qu'on nous parle de Mandela que à partir de son procès et de son entrée en prison, comme si avant il n'existait pas et comme si avant il n'y avait rien, et que finalement il commence sa vie d'acteur politique que en 1968, quand il est condamné à cette peine de prison à perpétuité. Mandela, d'ailleurs, Mandela, peut-être qu'on pourrait, c'est déjà très intéressant de voir qu'on l'appelle Nelson Mandela ici, et que d'ailleurs tous les hommages qui sont faits viennent on va dire, dirigeants. D'ailleurs, je crois que la plus belle chose, chose la plus symbolique là-dedans, c'est à quel point on nous ressasse et on nous refile tous les clichés et les poncifs, à savoir les musiques et les chansons type la chanson Simple Minds, la Mandela Day, ou le cliché Johnny Clegg, etc. Il y a vraiment une déshistorisation du combat qui a été celui des Noirs sud-africains pour leur émancipation. C'est vraiment très intéressant de voir que la perception de Mandela, elle est faite que d'ici et pas par rapport à ce qu'il est lui et ce qu'a été ce mouvement d'émancipation et ce mouvement de lutte qu'a pu représenter l'ANC. Donc Mandela, il adhère en 1944 à l'ANC, et Mandela, en fait, c'est un Xhosa. Les populations autochtones en Afrique du Sud sont organisées en tribus, les Xhosa, les Zoulous, les Bora, etc., etc.
Et le vrai nom, si je peux me permettre de faire une aparté, j'aime pas du tout ce mot tribu appliqué aux populations africaines, parce que ça fait un peu primitif. Faut pas oublier que le cône austral de l'Afrique a été le siège d'importants états africains avant l'arrivée des Européens, des états forts et structurés de manière aussi moderne que ce qu'on pouvait voir en Europe, et que c'est pas que des nègres en pagne avec des lances. La force de l'état Zoulou a été quand même une des plus grosses épines dans le pied des colonisateurs européens en Afrique du Sud.
C'est bien pour ça qu'il y a eu des guerres et que l'asservissement, il s'est fait par la force et par collaboration. Il était nécessaire à la fois de détruire cet État qui était plutôt fédéral, puisqu'il y avait des organisations selon différentes strates, mais aussi de le maintenir sous pression et sous asservissement pendant l'apartheid et pendant la domination africaine. Et d'ailleurs, la puissance culturelle du peuple Zoulou, tu fais vachement bien signaler, dans mon propos, tribu n'était pas forcément péjoratif, mais la puissance culturelle du peuple Zoulou et le renouveau culturel qu'il va pouvoir y avoir dans les années 60, et on l'écoutera tout à l'heure avec quelques artistes qui ont pu émaner de ce renouveau culturel, a été une des bases sur laquelle le combat pour l'émancipation du peuple, des peuples noirs d'Afrique du Sud, ont trouvé leur force et leur puissance, quoi. L'organisation sociale et culturelle Zoulou est vraiment quelque chose, tu l'as dit, de principalement, d'extrêmement, de fondamental dans la résistance de ces peuples.
Oui, et puis d'ailleurs, on peut rappeler que pendant tout le processus de lutte contre l'apartheid, certes, il y avait l'ANC, une alliance de l'ANC et du Parti communiste sud-africain, mais il ne faut pas oublier que il y avait un mouvement national Zoulou très important, et la lutte contre l'apartheid, c'est aussi l'histoire d'une guerre interne entre populations africaines, entre, en gros, l'ANC, qui est plutôt implantée dans les populations Xhosa, et les mouvements Zoulous, qui avaient leur identité propre, et ça n'a pas été très très propre, justement.
Oui, ça a même été dégueulasse. Et d'ailleurs, la puissance africaneur utilisera souvent justement ces divisions pour pouvoir essayer de contenir le mouvement ANC. Donc, je voulais juste dire ça, c'était pour dire qu'en fait, Nelson Mandela s'appelle Rolihlahla Madiba, quoi. C'est un nom, son nom tribal, avec toutes les précautions qu'on vient de dire pour ce nom. Il est né en 1918.
Ouais, clanique, non clanique.
Clanique, alors allons-y pour clanique. Il est issu de la petite noblesse féodale. Il est à noter...
belle noblesse, hein. Il a un roi dans ses ancêtres, un arrière-grand-père.
Oui, 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 quand même. On ne vient pas de rien non plus. On ne devient pas président de l'Afrique du Sud comme ça. On n'est pas des roturiers, quoi. Il va à l'école, dans une école protestante méthodiste. C'est là donc qu'il aura ce nom de Nelson.
En hommage à l'amiral, bien connu.
Bien sûr. Et il rejoindra donc l'ANC en 44. Il deviendra le chef de la Ligue des Jeunes de l'ANC, parce qu'il va aller à l'université. Il va devenir, à partir de je crois que c'est 1961, mais je suis pas sûr, le chef de la branche paramilitaire de l'organisation armée qui s'appelle Umkhonto Wesizwe, résumé sous le nom de MK, signifie fer de lance de la nation. dirigé donc par Nelson Mandela et par Joe Slovo pour le Parti communiste, puisqu'au cours de l'histoire de l'ANC et de la lutte, il y aura largement des alliances, des collaborations, mais aussi des luttes avec le Parti communiste sud-africain qui, lui, est totalement féodé à l'Union soviétique. Évidemment, vous voyez l'importance stratégique que peut avoir le contrôle de ce cône, comme on le disait, et l'ANC, en tous les cas sa branche paramilitaire, sera largement financée et armée par les services de l'Union soviétique.
Ouais, alors t'as fait un grand bond au-dessus de ses années de jeunesse. Juste de rappeler qu'il a quand même eu la chance d'intégrer la seule université pour noirs d'Afrique du Sud à l'époque, de par ses origines familiales et sociales, et que visiblement, si on en croit la légende officielle, mais pourquoi pas, c'est au cours de ses années d'études où il a vécu une injustice collective, et c'est là que ça lui a foutu la rage et qu'il s'est fait virer de l'université. Par la suite, il se débrouillera pour devenir avocat quand même. Mais juste pour dire que, en tant qu'aristocrate, s'il avait baissé la tête, qu'est-ce qu'il serait devenu ? Il aurait fait partie de ces élites autochtones que le colonisateur a quand même, dont le colonisateur a quand même besoin pour gérer la société, indépendance ou pas. Et là, pour le coup, on se retrouve dans un parcours d'élite coloniale, comme dans beaucoup de pays colonisés.
Le problème, effectivement, c'est qu'avec cette ségrégation forcenée, il y a toujours eu le problème qui était posé de savoir sur quel relais s'appuyer pour pouvoir constituer cette bourgeoisie, ou en tous les cas cette élite traditionnelle et locale sur laquelle s'appuyer pour servir de relais, quoi. C'est peut-être un des problèmes qu'il faudrait poser aujourd'hui, et c'est ce que Denis disait dans l'introduction, la nécessité de constituer cette couche bureaucratique, cette bourgeoisie, quoi, pour être clair, disons le mot, sur lequel s'appuyer pour l'État sud-africain. Mais ça, on en viendra peut-être certainement dans la conclusion. Peut-être qu'on peut continuer à poursuivre le fil historique et venir justement, avant de faire une pause musicale, à ce qui va fonder quelque part l'engagement, peut-être pas l'engagement de Mandela, tu l'as dit, mais en tous les cas, un moment clé dans ce que va pouvoir être la révolte et la lutte, c'est le massacre de Sheffield en 1960, où il y a des manifestations civiques contre le port du pass, c'est-à-dire le port d'un passeport spécial réservé aux communautés aux Noirs, afin de leur permettre de circuler selon des normes évidemment draconiennes. Et là, il y a effectivement quelque part l'inspiration du mouvement des droits civiques pour sortir dans la rue, mais ça se passe pas comme ça en Afrique du Sud. Il y a des massacres. Et il y a la suspension de toutes les tolérances politiques qui pouvaient y avoir, puisque à ce moment-là, l'ANC était organisée. Et l'ANC et tous les partis sud-africains qui ne correspondent pas à des données en gros, qui supportent pas la ségrégation, sont suspendus. Et c'est à ce moment donc que l'organisation paramilitaire est fondée. Et que l'ANC et donc le MK va déclencher une campagne de lutte armée, de sabotage, certes, mais pas seulement. On peut rappeler par exemple l'attentat contre la centrale nucléaire de Réco en 1982, jusqu'en 1985 il y a des attentats avec des bombes, il y a des tentatives d'enlèvement, des expropriations pour financer l'ANC, etc., etc. Ce n'est qu'en 1986 que une trêve sera décrétée pour les premières négociations entre des représentants du gouvernement afrikaner et de l'ANC. Donc il y a quand même 25 ans, un quart de siècle de lutte armée. C'est ça. Et Mandela est arrêté en 62. Il est quand même
au début de la lutte armée.
C'est ça. Grâce à des informations fournies par la CIA.
Eh oui.
Et il sera condamné. Il sera condamné donc plus tard lors d'un procès retentissant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 1964, l'entièreté de la base et de la direction de l'ANC est complètement décapitée à la suite des arrestations et de la campagne qui est menée, et que donc quelque part, il y a quand même ce paradoxe qui est que il va y avoir une direction qui va être emprisonnée, mais le mouvement continu qui va aboutir à l'émancipation et à la reconnaissance ne sera pas mené par Mandela. En tous les cas, pas physiquement mené par Mandela. Et que donc cette projection aussi, telle qu'elle est faite aujourd'hui par les puissances et par les dirigeants, nous montre bien quelle forme politique prennent chez eux le progrès social et la lutte politique. C'est-à-dire que en fait, en substituant Mandela à ce long parcours, à cette longue lutte qui passera par des massacres comme ceux de Soweto en 1976, qui sera vraiment là aussi un des moments historiques pour la lutte des Noirs sud-africains, on veut nous faire comprendre, ou en tous les cas on veut nous faire croire que la liberté ne s'acquiert pas au prix de sacrifices, certes, alors, mais au prix d'une lutte acharnée.
Oui. Donc, en fait, ce que je trouve particulièrement dégueulasse en ce moment, c'est l'individualisation du truc. On a l'impression que Saint Mandela, en faisant de la tôle et en étant relayé en Occident par quelques mouvements anti-apartheid, a renversé l'apartheid à lui seul. Non. La lutte contre l'apartheid, l'ANC et au-delà, la lutte contre l'apartheid, c'est un mouvement de masse et des... S'il faut trouver des héros, il y en a tous les jours. Je rappellerai simplement la mort assassinée par la police d'un militant comme Steve Biko. C'est une affaire totalement connue. Il y en a eu plein d'autres. Il y a des films.
Je parlais de Solomon Wakulu, jeune de 22 ans, pendu en 1979.
Alors, Steve Biko était défenestré, je crois, ou alors je confonds. Mais il y a des films. C'est-à-dire que on nous sort les trois mêmes films récents sur l'histoire de Mandela, mais l'histoire sur la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, les films sur cette histoire, il y en a pas mal. Il suffit de chercher un peu, ils existent. Et je voudrais revenir aussi sur la question de la violence. On aime bien présenter Mandela comme une espèce de Gandhi sud-africain. Il y a beaucoup de citations de lui qui tournent. Bizarrement, il y en a une qu'on n'entend pas beaucoup, c'est celle où il dit... Il a, en gros, hein, je la cite, je l'ai pas en tête, mais en gros, la violence de l'opprimé, c'est pas l'opprimé qui la décide, c'est l'oppresseur qui décide de la forme de violence. Et donc, quand toi, Thatcher, quand l'Occident, quand la CIA classe l'ANC comme terroriste, c'est pas usurpé. Effectivement, la violence terroriste, elle a été utilisée, revendiquée par l'ANC. Il n'y a pas à s'en cacher, il n'y a pas à faire de demander là une espèce de saint pacifiste comme on fait maintenant.
Tout à fait, mais comme tu l'as dit, l'important c'est de substituer, de dégonfler ça. Enfin, on va s'écouter un peu de musique.
Ouais.
Hein. Enfin,
voilà un des exemples de la scène musicale qui a pu être le mouvement de d'émancipation sud-africain, puisque là on écoutait Brenda Fassé, une femme homosexuelle toxicomane qui est morte en 2009 et qui a pu notamment par ses chansons comme My Black President ou ce genre de choses développer et participer au renouveau culturel du peuple zoulou, du peuple xhosa et du peuple noir sud-africain. Alors on va pas forcément continuer à commenter le parcours de Mandela parce que on pourrait y passer toute l'émission et on voulait plutôt essayer aussi de réfléchir à pourquoi et comment s'est constituée la figure de Mandela à travers la solidarité dont il a pu bénéficier en Europe, puisque pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, à toutes les fêtes de l'UMA dans les années 80, ouais, et dans tous les lycées, dans tous les bahuts, voire même dans les universités, vous aviez de fortes chances de tomber d'une part sur des affiches, d'autre part des badges et des autocollants Libérer Mandela, Free Mandela. Et pour ceux qui habitent dans des zones où la gauche, et notamment la gauche communiste, a pu régner, je dis ça parce que c'est pas le cas ici, vous avez forcément des rues, des collèges, des avenues, des places, etc. Nelson Mandela, Dulcie September, parfois même Stephen Biko, etc. Souvent, dans toutes les mairies communistes, il y a au moins une rue ou quelque chose qui rappelle l'ANC. C'est donc en fait, on l'a dit, hein, dans la féodation que pouvait avoir l'ANC, le Parti communiste sud-africain, au grand frère soviétique, la mise en avant de Nelson Mandela comme figure démocratique principale, et la lutte pour sa libération devint un point de fixation symbolique international dans la lutte contre l'apartheid. Et donc c'était tout bénef pour la gauche et pour notamment le Parti communiste de se servir de cette lutte, ou en tout cas de ce symbole, d'une part pour continuer à vendre son analyse géopolitique anti-impérialiste, mais évidemment pas anti-impérialiste soviétique, mais d'autre part servir de vecteur de recrutement et de sensibilisation par rapport à la jeunesse. Répétons-le, il y a certainement des tonnes et des tonnes de gens qui étaient déjà en prison à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui, mais dont on ne se saisit pas. Mounir Abou Jamal, par exemple, en est une figure qui pourrait être extrêmement intéressante. Et donc, c'était vraiment le grand boulot des jeunesses communistes et du PCF de s'occuper de la défense et de la publicité du symbole Mandela, avec évidemment, comme c'est souvent le cas dans ce genre de campagne, aucun contenu politique, à savoir que Mandela est un prisonnier politique victime de l'apartheid, ce qui est vrai bien sûr, mais ce qui, au regard de ce qu'on a essayé d'expliquer en début de la première partie, est évidemment un petit peu plus...
À tel point d'ailleurs que moi, je m'en souviens, dans les années 80, je pensais naturellement que Mandela était du Parti communiste. Hein. étant donné que c'est eux qui portaient cette revendication libérée Mandela, et que on savait que le Parti communiste d'Afrique du Sud était important, et que en plus il y avait de fait, on est dans une période de géopolitique qui est complètement différente de maintenant, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait deux blocs, hein, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et effectivement, de toute façon, l'ANC n'avait pas trop le choix. À partir du moment où tu te battais contre les Anglais, et tu n'avais qu'une seule voie pour avoir des armes, c'était l'URSS. Bon, je crois qu'il y a d'autres pays, d'autres révolutions, révoltes, etc., qui ont connu la même chose, la même situation. C'est-à-dire que tu vas chercher où les armes? Voilà. Bon, là maintenant, c'est plus difficile, ça, parce que c'est plus disparate, dirons-nous. Puis le commerce devient plus général, c'est généralisé.
Et pour donner un exemple, c'est qu'en 1964, lors du procès de Mandela et de la direction de l'ANC, normalement ce qui doit être abouti, c'est la condamnation à mort, mais sous la menace, notamment la menace d'une grève du syndicat international des dockers, la peine qui sera décidée sera celle d'une condamnation à perpétuité, puisque dès à l'époque il y a des campagnes de solidarité qui sont faites, notamment à l'initiative de l'Union soviétique et ses organisations relais, Et c'est quelque part cette campagne qui va empêcher l'exécution de Mandela et de ses camarades, et qui justement aussi servira de comment dire, ben, oui, c'est ces campagnes dans les années 80 qui vont aussi permettre de continuer à maintenir les projecteurs sur la situation sud-africaine, quoi.
Alors, Denis, tu évoquais un monde bipolaire, ouais. En gros, c'est comme ça. Il y avait quand même un troisième pôle qui essayait de se constituer indépendamment, les non-alignés. Si je dis pas de bêtises, Mandela était secrétaire général de l'organisation des non-alignés. Ce qui a permis de faire quelques photos pour la postérité avec des gens comme Fidel Castro, Ahmed Ben Bella ou d'autres qu'on fait passer maintenant pour des méchants communistes, mais qui étaient surtout des leaders du tiers-monde. Et bizarrement, ces photos, on les voit plus.
Oui, et puis il faut aussi signaler que une des organisations modèles, ou en tous les cas là où pouvait trouver son inspiration Mandela, est une partie de l'ANC, pas toutes, c'était l'OLP, Arafat, et ce mouvement d'émancipation aussi, où il y avait des similarités qui étaient extrêmement intéressantes, tant au niveau des systèmes politiques, de la relégation, des conditions de vie, etc., de la négation culturelle. Mandela a de nombreuses fois fait référence et affirmer sa solidarité avec l'OLP et le peuple palestinien.
Alors, parmi les belles photos, il y a effectivement quelques jolies photos avec Arafat. Et au-delà des photos, il y a quand même eu une collaboration étroite de l'ANC, des mouvements palestiniens et d'autres mouvements, révolutionnaires. Concrètement, dans le désert algérien, dans les camps d'entraînement.
Ouais, tout à fait.
Et qu'en entraînement, pas à la manifestation pacifique.
Et justement, raison de plus pour c'était pas des stages de non-violents, de désobéissants où on s'asseyait devant
les bouchons de carottes.
Justement, raison de plus pour le vider de son contenu et le résumer à cette bipolarité en pensant que le monde n'a jamais bougé et que ça. Et d'ailleurs, un des outils de la solidarité avec Mandela, une solidarité propre, clean, quelque peu dépolitisée, c'était le boycott. Et c'était l'organisation de campagnes internationales de boycott, campagnes internationales qui va porter leurs fruits, puisque
oui, comme tu dis, cette période de Noël, il faut quand même dire qu'est-ce qu'on boycottait, les oranges à haute span.
Voilà, ouais. Et une campagne gigantesque, oui, de tous les produits venant d'Afrique du Sud. Et cette campagne de boycott va porter ses fruits à la fin des années 80, au cours de la période d'une période de crise économique en Afrique du Sud, qui va vraiment avoir besoin de ses exportations, puisque tu l'as dit, l'économie de l'Afrique du Sud est surtout basée sur les matières premières et sur les ressources agricoles.
Ouais, alors là, il y a peut-être un sujet à discussion. C'est pas les campagnes de boycott organisées par l'extrême gauche européenne qui a posé problème à l'économie et à l'État sud-africain. C'est quand même le blocus, pas blocus, mais le, aidez-moi.
L'embargo
décidé
par l'ONU.
Par l'ONU. Voilà, embargo qui a été largement piétiné par des États comme la France lorsqu'il s'agissait de vendre des armes et autres avions de chasse qu'on n'arrivait pas à vendre ailleurs. Merci d'assaut. Donc c'est pas le boycott.
Tu as raison. Ce que je voulais signaler, moi, c'était qu'il y avait un mouvement démocratique de masse qui était quand même derrière, qui continuait toujours à porter ses revendications, et que forcément, à un moment, cette pression, elle a abouti à la décision de l'embargo. Et s'il n'y avait pas eu ce mouvement derrière, il n'y aurait peut-être pas eu ces décisions de l'ONU, mais on ne va pas faire de prospective. Par contre, ce que je voulais dire, c'était que le boycott et toutes ces formes, petits achats de badges, d'affiches, d'autocollants, il est aussi complètement à l'image de comment on perçoit aujourd'hui Mandela, puisque les moments de solidarité qui avaient pu être politiques, comme on parlait tout à l'heure de la grève du syndicat international des dockers, ont été complètement vidés par ces gros moments qu'ont pu être les shows humanitaires ou le charity business, notamment dans les Mandela Day et dans les immenses concerts tels que sont très friands de ça les Anglais, et comment justement de transformer un militant politique issu lui-même d'un mouvement en une icône vide où chacun peut mettre effectivement ce qu'il veut prépare ce que va être le futur de la libération de Mandela et le destin de la nation sud-africaine, avec des guillemets, parce qu'est-ce qu'il y a une nation sud-africaine, telle que tu pouvais le décrire en début d'émission. Et c'est ce moment qui, à mon avis, est aussi extrêmement révélateur, puisque à partir de 1990, Mandela va être sorti, c'est même encore avant, mais j'ai pas la date, donc je veux pas dire des bêtises, mais Mandela va être sorti de la fameuse prison de Rhode Island, hein, dont on parle.
C'est en 85.
Il va être mis d'abord dans une autre prison, ensuite il va être en résidence surveillée, on va pouvoir recevoir des gens. Il va y avoir donc avec de Klerk la préparation d'un processus de transition dans laquelle effectivement l'abandon des revendications sociales va être extrêmement important. Et lorsque en 1991 Mandela devient président de l'ANC, il est clair que sa liberté et le contrôle du mouvement de l'ANC est soumise parce que ces choses-là ne se décident pas à deux, entre De Klerk et Mandela, mais est soumise à un processus qui va permettre en 1994 la création et l'élection de la République, la création et l'élection, pardon, de Mandela à la présidence de la République. Et ce concept, cette démarche, cette transition, elle est vraiment résumée par le concept de nation arc-en-ciel. Rainbow Nation, là. Qui est plus un concept publicitaire en fait qu'une réalité, sous cet arc-en-ciel, il y a effectivement toute la question sociale qui est gommée, mise sous le boisseau, et l'état de la nation sud-africaine tel que tu l'as décrit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très intéressant de s'intéresser. Je parle aux écrivains sud-africains. Il y a toute une nouvelle scène de l'écriture, de la littérature sud-africaine. Auparavant, il y avait des gens comme Nadine Gordimer, etc. Aujourd'hui, les écrivains les plus intéressants et les plus populaires dans le monde, ce sont des écrivains de polar qui décrivent une situation sociale et un état de la société complètement décomposé, complètement barbare, et qui finalement n'a pas véritablement changé dans ses mécanismes d'oppression par rapport à ce que pouvait être la société d'apartheid. C'est nommé autrement, moi j'appelle ça le capitalisme, peut-être qu'il faudrait l'étudier pour vérifier et comprendre ce qui est devenu la société sud-africaine. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce processus qui aboutit qui part de la libération de Mandela et qui aboutit à la Coupe du Monde de rugby en 1995, qui est masqué, camouflé sous ce truc de Rainbow Nation, qui est dans l'organisation et dans la structuration de ce que va être l'économie sud-africaine, avec, tu l'as dit, le renoncement aux nationalisations, mais la mise en place de ce Black Empowerment, le BEE, la discrimination positive, les quotas, etc. Le groupe Vérité Réconciliation, qui est en fait l'amnistie
de tous les criminels.
Voilà, c'est ça. La constitution de l'alliance tripartite avec la centrale syndicale, le COSATU, l'ANC et le CACP, qui va permettre la redistribution et le maintien des grandes propriétés foncières, et surtout le passage et la création d'un État qui soit, et d'une bureaucratie, d'une intelligentsia qui va permettre de mener la direction de l'Afrique du Sud et de continuer à pouvoir faire marcher le commerce. eh ben ça va être vraiment le boulot de Mandela, et il va le remplir parfaitement, et c'est bien normal que tous les dirigeants occidentaux, je dirais, fassent amende honorable en allant se rendre aux obsèques de Mandela et en lui rendant hommage, parce que quelque part, sans le travail qu'aurait effectué Nelson Mandela à partir des années 90, la question sud-africaine aurait pu être une sacrée épine dans le pied par rapport justement à comment dire, avec la destruction, avec la chute de l'Empire soviétique, ça aurait pu se passer de manière beaucoup moins profitable pour les puissances occidentales.
Alors. Juste insister, sur un point, c'est pas une contradiction, j'insiste. Le travail de limitation de SAP de la lutte des classes en Afrique du Sud, ça n'a pas commencé dans les années 80. Hein. C'est
d'accord.
Quelque chose qui est consubstantiel à l'ANC, main dans la main avec le Parti communiste sud-africain. Lutter contre l'apartheid, oui. Appliquer la lutte des classes ou travailler la lutte des classes au moderato. Et alors, c'est d'autant plus intéressant ce que tu disais par rapport à tout ça, c'est que quand on écoute maintenant les médias, le discours actuel sur l'Afrique du Sud, et j'étais frappé ce matin parce que j'entendais, ça devait être sur France Inter, ils interviewaient des Sud-Africains aujourd'hui, blancs comme noirs, qui disaient, mais Mandela, il est mort. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? On va retourner. Alors, on va tomber dans un anti-apartheid où c'est les blancs qui vont être mis en minorité. Enfin, on va retomber dans une guerre civile de type ethnique, racial. Mais bordel de merde, Marikana, ça veut rien dire ce nom-là. Marikana, c'était l'année dernière. Il y a eu des centaines de morts dans des fusillades entre les forces de police. C'est une fusillade, mais c'est les forces de police qui ont tiré. Il y a eu des centaines de morts parmi les ouvriers miniers dans la grande mine de Marikana et ailleurs, il y a un peu moins d'un an. Et la question sociale, ils vont se la prendre dans les dents, effectivement, l'histoire n'est pas finie.
L'organisation de la Coupe du Monde de football, il y a...
Moi si tu veux, il y a un truc qui, par rapport à ce qui s'est passé, la lutte anti-apartheid, ça fait penser à la revendication d'égalité des droits, si tu veux. Et finalement, quand tu as l'égalité des droits, quand tu progresses dans l'égalité des droits, parce que tu l'as véritablement jamais, mais quand tu progresses vers l'égalité des droits, finalement tu résous pas forcément, c'est moins qu'on puisse dire, la question sociale. Là, tu t'aperçois que l'apartheid, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, n'a rien, et même on peut même dire, comme il l'a dit tout à l'heure, ça a même augmenté les différences qu'il y a entre les classes sociales aujourd'hui. Hein, c'est encore pire que sous l'apartheid. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où les problèmes de fond n'ont jamais été posés. Peut-être que maintenant, ils vont peut-être se poser d'une manière vraiment très dure, très sanglante. Et je ne crois pas forcément que ce soit parce que ce qui s'est passé il y a un an au niveau des mines, putain, mais c'était la lutte de classe 19e siècle.
C'était germinal. Hein.
C'était germinal, c'était clair, quoi. Bon, et prendre ça en pleine gueule, je pense qu'il va y avoir des tas de choses de ce type-là qui risquent de se produire dans les prochaines années. Ça me paraît évident quand tu connais un petit peu la situation. Et sans apartheid. Et avec l'égalité des droits formelle, parce que c'est l'égalité des droits, mais qui est complètement formelle. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui a tiré contre les mineurs? Faut pas oublier que c'était une police et une armée qui était bien black. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus.
Oui, qui était multiracial
et arc-en-ciel.
Avec un syndicat principal, courroie de transmission de l'ANC, qui a quand même bien marcher sur la gueule des mineurs.
Quoi. Bien sûr, mais dans ce rôle, dans cette continuité et dans cette reconstruction, en tous les cas réimpulsion du capitalisme du début des années 90, chacun a joué son rôle, et c'est pour ça, je pense que effectivement, Mandela est fort apprécié par l'ensemble des dirigeants de la planète et qui font amende honorable, ou en tous les cas qui masquent bien comment ils ont pu traiter, puisque le rôle qu'il a joué dans le maintien du capital, de la puissance du capital en Afrique du Sud a été extrêmement important, quoi.
Peut-être faire une pause, une dernière pause musicale africaine là. Hein.
Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment, monsieur. Comme ça il n'y aura pas de violence,
aucun inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, c'était les Régoles, il parle d'anarchistes communistes, chaque semaine sur les Côtes des Règles, Montpellier et Canassus.